Si tu te sens à bout, si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le stupé flip crew. Et si la vie te saoule, et si tu te sens seul, faut que t'écoutes le stupé flip crew, crew, crew.
7 milliards de voisins.
On est ensemble avec Charlie Dupiau pour les voisins et les voisines.
5, 4, 3, 2, 1, 0, c'est parti. Ok?
Et les keufs et les meufs dans le heure. La banlieue, c'est pas rose.
La banlieue, c'est moron.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. On parle des banlieues aujourd'hui et on renverse tout, hein, même le traditionnel générique de l'émission. On va surtout renverser les clichés qui pèsent sur ces zones en périphérie des villes qui sont, contrairement à ce qu'on a entendu, pourtant loin d'être moroses. Alors de Pékin à Saint-Denis, en passant par Abomey-Calavi, les banlieues sont souvent stigmatisées, marginalisées. Mais quelles initiatives sur ces territoires qui bougent plus qu'on ne voudrait le croire? Et pourquoi finalement ne pas s'y arrêter, ne pas les visiter justement? Nous sommes en compagnie de deux voyageurs, deux grands voyageurs qui ont sillonné la banlieue parisienne. Bonjour Marie-Hélène Baquet.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, professeure d'études urbaines à l'université Paris-Nanterre et vous êtes partie le long du RERB, cette ligne de transport qui rallie le nord et le sud de Paris, pour en tirer un livre, Retour à Roissy, un voyage sur le RERB. Bonjour Wales Geyer.
Bonjour.
Votre voyage à vous s'est concentré sur la Seine-Saint-Denis, et c'est déjà pas mal, hein, département au nord de Paris, une exploration qui vous a inspiré un documentaire, Mon incroyable 93, que vous présentez comme le film de vos vacances en Seine-Saint-Denis. Mais c'est un peu plus que ça quand même, on le verra. Nous irons également dans cette émission à Pékin, près de Dakar, où nous joindrons Amadou Falba de l'association Afrique Urbaine. Et puis nous rejoindrons Abomey-Calavi avec Augustino Agbemavo, qui a créé une bibliothèque mobile dans cette banlieue. Alors les voisins, les voisines, si vous aussi vous vivez en banlieue, Pékin, Saint-Denis, Yopougon, Abomey-Calavi, comment vous, vous voyez votre ville? Qu'est-ce que vous aimeriez voir changer? On vous attend dès maintenant au 33 1 84 22 71 71, 33 1 84 22 71 71, et comme toujours vous nous écrivez sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Et je vous lis déjà quelques messages. Celui de Jérôme qui nous écrit du Togo. Dans les banlieues de Lomé comme à Agoé, on voit le désordre des habitations, on voit de l'insalubrité, des problèmes d'électricité, des dépotoirs sauvages. Ces banlieues sont livrées à elles-mêmes. Il y a un vrai contraste avec le centre-ville. Amit, lui, vit en banlieue de N'Djamena au Tchad. Nous avons des problèmes de voirie et des inondations. Les routes sont impraticables quand il pleut. Mais il y a aussi, il faut le dire, des initiatives positives menées par les habitants de cette banlieue eux-mêmes. Par exemple, ils peuvent cotiser pour acheter quelques bennes de terre, notamment pour améliorer la route.
7 milliards de voisins.
Et aujourd'hui, on dit quoi ?
Allez, on part en vadrouille le long du RERB, cette ligne qui traverse la banlieue parisienne du nord au sud. Le RERB, c'est presque 1 million de passagers chaque jour, très précisément 983 000. C'est la deuxième ligne de transport la plus chargée d'Europe. Notre reporter Alice Milo est partie micro en main rencontrer des voyageurs, en l'occurrence des voyageuses.
On est sur le quai du RERB à Châtelet.
Qu'est-ce que vous faites là ?
Je vais au travail, donc c'est mon trajet habituel de tous les matins. C'est une ligne, on ne sait jamais à quelle heure elle va passer et s'il y aura des problèmes ou pas.
Et vous, vous avez souvent des problèmes ?
Souvent, très très souvent. Donc faut partir plus tôt pour éviter les retards, ce genre de choses.
Il faut combien de temps pour aller au travail pour vous ?
Il faut une heure et quand il y a des problèmes, ben 1h30, 2h.
Vous prévoyez toujours du retard dans votre trajet ?
C'est ça. Je pars de façon à ce que j'ai une marge de, allez, 1h40, 1h45.
Donc vous perdez 45 minutes de sommeil tous les matins ?
Ouais, voilà.
Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez que ça s'affiche, qu'il y a un problème, qu'il y a un mauvais contrôleur ? Qu'est-ce que vous ressentez ?
Ça me gâche un peu ma journée, surtout mon début de journée en fait. Quand je pars plus tôt et que j'arrive en retard, ça me saoule en fait, parce que du coup toute mon organisation est bouleversée et mon humeur aussi.
C'est le vôtre ?
Voilà, c'est
bien. Ok, je vais monter avec vous aussi d'ailleurs, parce que je vais pas voir. Voilà, donc là, c'est le grand balai des gens qui descendent et qui montent.
C'est ça, et souvent, en fait, on laisse pas passer les gens, on les laisse pas monter ou on les laisse pas descendre, c'est relou.
Attention à la marche en descendant du train.
Où est-ce qu'on est ici ?
À Sceaux.
C'est votre station ?
Absolument pas.
C'est la mienne.
Ma station, c'est Courcelles-sur-Yvette, au bout de la ligne.
Au bout du RERV.
Tout
c'est
à
pas
fait.
Cette, pas cette branche-là.
Juste avant Saint-Rémy-les-Chevreuses.
Ici, on est sur la ligne sud du RER. Est-ce que c'est différent, les villes qu'on traverse, l'ambiance, tout, du Nord?
Bien sûr que l'ambiance n'est pas la même.
La Courneuve, Aubervilliers, le Bourget, Drancy, le Blanc-Mesnil, Aulnay-sous-Bois, donc c'est autre ambiance?
Eh bien oui, ben là c'est beaucoup plus urbanisé. Moi je peux vous décrire le paysage du Sud, hein. C'est les pavillons, les arbres, on a même... j'allais dire les champs, mais à partir de Palaiseau, Bure, c'est beaucoup plus aéré. Et on est très privilégié, je ne sais pas comment vous le dire autrement, mais ça je reconnais. Et c'est quelque chose que je dis souvent à mes enfants.
Ça, c'est des villes plutôt bourgeoises, on va dire.
Ah, mais complètement. Non, mais complètement.
Oui, mais c'est bourgeois, mais c'est surtout campagne, aéré. C'est surtout ça qui est important.
C'est au niveau des paysages, mais pour pouvoir acheter ou vivre là-bas, il faut quand même avoir un certain.
Vous avez une maison?
Oui.
Avec un jardin?
Oui, pour acheter, il fallait s'éloigner, de toute façon.
Donc, c'est un trait d'union, quelque part, entre la ville et la campagne, en fait, ce RER.
Ah, c'est complètement un trait d'union, ouais, qui relie la ville et la campagne.
La banlieue, la grande banlieue, quoi. La campagne, ouais, la grande banlieue, au centre, en gros, c'est ça. Hein.
Parce que c'est quand même, si le RER marchait bien, on est à trois quarts d'heure de Châtelet. Donc, on n'est pas si loin. Si le RER fonctionnait. Voilà.
Marie-Hélène Baquet, vous aussi, vous avez beaucoup emprunté ce RER B. Ça vous rappelle des bons souvenirs?
Oui, et puis le contraste entre le Nord et le Sud là, qui ressort de ces interviews, effectivement, est épatant. Et quand on traverse Paris et qu'on vient du Nord et qu'on arrive dans le Sud, on a vraiment le sentiment qu'on arrive dans un autre monde.
Et vous êtes beaucoup plus restée d'ailleurs dans le Nord, hein, de cette ligne.
Oui, j'ai été fascinée par le Nord. Bon, c'est aussi sans doute parce que c'est un territoire que je connais mieux, mais c'est un territoire qui est vibrant, qui est très divers, où il y a une dynamique très très forte et qui m'a beaucoup attirée.
Et vous avez donc, avec un photographe, André Marian, retracé le parcours de l'intellectuel François Maspero et d'Anaïck Franz, qui ont fait ce voyage le long du RER 30 ans plus tôt, quand la France, on peut le dire, découvrait ses banlieues. Pourquoi avoir refait ce voyage-là?
Parce que 30 ans après, d'abord le livre de Maspero est un livre qui m'a beaucoup marqué. J'habitais à l'époque en Seine-Saint-Denis quand je l'ai découvert, juste à sa sortie. Et puis 30 ans après, on a 30 ans de politique de la ville, finalement, qui ont beaucoup retravaillé les banlieues, en particulier les quartiers d'habitat social. Et puis on a en préparation le Grand Paris, qui est très présent dans toutes ces banlieues, qui est à la fois un projet politique de gestion, de gouvernance de la banlieue, mais aussi un projet urbain qui va profondément transformer la région parisienne. Et donc j'avais envie d'aller voir ce qu'il en était. François Maspero disait il faut aller voir la vraie vie de l'autre côté du périphérique, et j'ai fait la même démarche, puisque en 30 ans Paris n'a cessé finalement de s'embourgeoiser, alors que les banlieues populaires, elles, au contraire, se sont très ouvertes.
Et vous écrivez, hein, que le 93, donc au nord de la ligne, au nord de Paris, ne peut pas être réduit à une image chaotique. Au contraire, vous y voyez, je vous cite, un laboratoire où se fabrique la métropole de demain, où se jouent les tensions de notre société.
Oui, un laboratoire quand on le traverse, on voit bien toutes les étapes de formation des villes, avec notamment des projets qui ont été portés beaucoup par des municipalités communistes, qui étaient des projets de modernisation, avec l'appel à de grands architectes. Alors, des projets qui ont plus ou moins fonctionné, parce qu'ils ont quand même, malgré tout, souvent été faits sans les habitants, au nom du bien pour le peuple. Mais il y avait quand même des utopies qui structuraient ces territoires. Et puis aujourd'hui, on a de nouveau un grand projet qui n'est pas sans poser problème.
Weltgeier, vous êtes d'accord?
Oui, je pense, dans le petit reportage, c'était assez drôle, parce que c'est vrai que peut-être que mon regard, il a complètement changé, mais c'est vrai que moi c'est un plaisir maintenant de prendre les RRB, parce que aussi on rencontre plein de gens différents, on rencontre à chaque vie, à chaque étape, on rencontre aussi des gens différents, des gens qui travaillent, qui vivent et qui font des choses ou qui ne font rien, mais en tout cas, ils sont là, et il y a une émulsion. Un vrai laboratoire, c'est une grande salade où on mélange et on la déguste, et c'est une très bonne salade, en fait, je trouve. Et...
Allez, roulez, allez, allez, allez. Wow.
Ouais.
Merci de m'accueillir chez toi, hein.
Bah ouais, on se connaît peu en plus.
Incroyable.
Je viens juste de te rencontrer en scooter. J'ai vu un mec avec un sac à dos rouge, je me suis dit bon.
Paf. Eh, ils sont accueillants les habitants de.
Les mecs dans le 9-3, on est tellement sympas. Born in the Blancs-Mesnil.
Born in le Blancs-Mesnil, ça sonne presque aussi bien que l'original.
C'est ça.
C'est un extrait de votre documentaire, hein, Weltgeier. Là, donc on n'est plus dans l'RER, on est en scooter et vous êtes parti pour ce documentaire à moto, en voiture, notamment dans les voitures d'habitants. Vous avez campé, vous avez vraiment été un touriste en fait dans ce département où vous avez grandi.
J'ai fait le touriste en Seine-Saint-Denis, oui, c'est ça exactement. L'idée, c'était de un peu sortir de tous les clichés qu'on entend et de pas forcément les nommer, mais se dire bah nous quand on habite à Paris on les connaît, en France on les connaît aussi, allons montrer ce qui se montre pas, c'est pas positif, je dirais que c'est plutôt quelque chose de allons voir la vie normale en fait de ce qui se passe au quotidien, et allons voir ses habitants. Oui, j'ai beaucoup marché aussi, j'ai pris le vélo, et l'idée c'était de voilà, j'aurais pu partir là-bas comme ça au Pérou, mais j'ai décidé de partir en Seine-Saint-Denis avec mon sac à dos et dormir chez les gens et ne jamais rentrer chez moi en fait.
Et
vraiment, vraiment découvrir les gens et filmer.
Filmer leurs rencontres,
filmer les habitants surtout et montrer le patrimoine humain. Voilà, on parlait de Paris qui sent bourgeoise. Pour moi, Paris, elle se muséifie en fait. C'est un musée à ciel ouvert. Et là, le musée de la Seine-Saint-Denis, c'est ses habitants qui font des choses qui impulse des choses à la Seine-Saint-Denis qui en font ce territoire très riche.
Vous avez par exemple rencontré un jeune pêcheur qui pêche la carpe. Vous avez aussi beaucoup mangé, on vous voit beaucoup manger dans ce documentaire.
J'ai énormément mangé. En fait, ce qui est intéressant à Seine-Saint-Denis, c'est qu'on peut manger le monde entier. Et bon, moi, je fais un parallèle avec la Seine-Saint-Denis. Pour moi, c'est un concentré de l'histoire de France. Toutes ces vagues d'immigration qu'on a eues en France, et on les retrouve en Seine-Saint-Denis. On entend, je sais pas, près de 190 langues différentes parler. Et voilà, on y mange beaucoup, on y mange bien. Moi, j'aime bien découvrir. C'est ça aussi le voyage. C'est par la cuisine, on crée des connexions avec les gens. Et en même temps, on découvre. Et ça, c'est un voyage dans le voyage. Et c'est ça qui est encore plus magique.
Marie-Hélène Baquet, quel cliché pèse malgré tout encore aujourd'hui sur les banlieues françaises ?
Beaucoup de clichés. Ce serait des territoires qui seraient hors de la République, des territoires de non-droit où la police, les pompiers ne pourraient pas rentrer. Ce serait une fabrique à terroristes. Ce serait des lieux de l'islamisme radical, des endroits où les femmes ne pourraient pas sortir la nuit. Voilà, et on est vraiment centré sur ces images-là. Il suffit de regarder les quelques ouvrages qui sont sortis l'an dernier sur les banlieues, qui sont vraiment centrés là-dessus et qui font, à mon avis, totalement contresens.
Et qui sont effectivement à l'encontre de l'image qu'on a quand on parcourt ce territoire.
Oui, c'est pas du tout la même chose. Le ressenti, il est différent, et surtout que c'est comme tout, en fait, c'est que c'est le 1% qui crie le plus fort.
Parce qu'effectivement, ces problèmes existent.
Ces problèmes existent. Oui. Il y a des problèmes, on le sait, mais comme partout, en fait. C'est pour ça que je dis que la Seine-Saint-Denis, c'est un territoire normal aussi. C'est que c'est un concentré, mais c'est juste la densification qui fait qu'on entend plus ces genres de choses. Et c'est vrai que c'est toujours ça. C'est que le 1% qui crie le plus fort se fait entendre. Et le reste, on l'entend pas, on le montre pas et on veut pas le montrer. Et donc, ouais, c'était ça.
Et y compris du point de vue des paysages urbains. Mm-hmm. Je suis partie avec un photographe marseillais, donc il ne connaissait pas du tout la Seine-Saint-Denis ni la région parisienne, et qui s'attendait à voir des nœuds d'autoroute, des tours, des cités de béton. Et ses premiers commentaires, ça a été de dire « Ah, mais non, mais c'est vraiment autre chose. Il y a beaucoup de jardins, il y a beaucoup d'espaces verts et les gens sont gentils. »
Une vraie
les gens sont gentils.
Les voisins, les voisines, vous nous appelez si vous voulez témoigner, nous raconter votre banlieue, si vous vivez en périphérie, au 33 1 84 22 71 71. Et vous pouvez aussi nous laisser vos messages sur WhatsApp. Et d'ailleurs, c'est l'heure d'en écouter quelques-uns.
Bonjour Charlie, bonjour à tous les voisins et voisines qui sont à l'écoute de l'émission. La situation des banlieues est aussi une réalité que nous vivons au Tchad. C'est un ensemble de logements sociaux situés à la périphérie des villes. Ce type d'habitat a été longtemps convoité par des classes moyennes. Ces quartiers sont devenus un lieu avec beaucoup de problèmes. Il y a un grand nombre de banditisme et de petits trafiquants. Quelquefois, le contrôle des trafics de cannabis se règle à coups d'armes à feu avec la police.
Bonjour, RFI, voisins ou voisines.
J'ai vu dans un quartier à 15 km de Bamako, un quartier qui s'appelle Bamako-Sénou village. Dans ce quartier, à part la route internationale qui traverse pour la Côte d'Ivoire, la vie est très difficile. Les routes à l'intérieur du quartier sont impraticables. Les réseaux sociaux passent mal parfois, le courant aussi. Il n'y a pas d'eau du robinet. La population est très, très, très élevée. Merci.
Bonjour les voisins et les voisines. Je m'appelle Félicie Armand. Je vous appelle de Abomey-Calavi. Ici, à Abomey-Calavi, ça a changé parce qu'avant, quand j'avais vécu ici, c'était rien que de la brousse. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues s'installer ici. Il y a de l'électricité, il y a de l'ambiance. Il y a des belles maisons, il y a des écoles publiques et privées qui sont là. C'est pas mal quand même.
Message de voisins sur WhatsApp. Marie-Hélène Baquet, vous voulez réagir ?
Bah oui, d'abord, on voit la diversité des images de la banlieue. Et je pense que dans un même territoire, on peut avoir des habitants qui vont donner des images très, très diverses. Et puis, on voit aussi que la question de la mobilité est une dimension quand même très importante dans les banlieues. C'est comment accéder à d'autres banlieues, comment accéder à la centralité. Ça, il me semble que c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de villes.
La question des routes.
La question des routes, des transports. En Seine-Saint-Denis, l'état du réseau de bus, par exemple, est assez catastrophique. Voilà, le nombre de fois où on attend, où les bus passent devant sans s'arrêter. Donc voilà, cette question-là, elle est quand même très, très importante. Et puis aussi, ce que j'ai entendu dans la première intervention, c'est des logements sociaux qui étaient construits au départ pour des classes moyennes. C'est un peu l'histoire des grands ensembles en région parisienne, où on avait des quartiers qui étaient très mixtes et où les politiques publiques ont pousser finalement les classes moyennes à aller habiter ailleurs, et notamment à aller habiter dans des secteurs pavillonnaires qui ont contribué à manger les terres agricoles et à densifier un certain nombre de secteurs.
Et on parlait des changements qui sont intervenus entre temps, ça en fait partie.
Oui, ça fait partie des changements, effectivement, la paupérisation d'un certain nombre de quartiers qui fait que, et ça c'est un phénomène qu'on voit dans beaucoup de métropoles, les écarts entre les quartiers des plus riches et les quartiers des plus pauvres ont tendance à s'accentuer de manière importante.
Alors après avoir entendu des voisins maliens, tchadiens et béninois, on va parler du Sénégal, direction Pikine, près de Dakar. Bonjour Amadou Falba.
Bonjour.
Vous avez lancé Afrique Urbaine en 2006 à Pikine, donc en banlieue de Dakar. Alors peut-être qu'on va dire quelques mots déjà de Pikine. Pikine, c'est près de 2 millions d'habitants.
Oui, okay. Environ.
Environ, c'est ça. Et vous y avez grandi, hein, c'est ça ?
Oui, j'ai passé une quinzaine d'années là.
Et vous êtes ensuite parti pour vivre en ville ?
Oui. Je suis de Wakam, à Dakar, mais j'ai habité en Pikine pendant 15 ans et je suis retourné à Dakar pour des raisons, pour le lycée, et ensuite pour des raisons professionnelles. Mais aujourd'hui, je travaille à Pikine, c'est-à-dire que moi, mon cas est un peu spécifique. Quand je me réveille, les gens de Pikine, la majorité, ils viennent à Dakar pour travailler. Moi, je fais le sens inverse. Je quitte Dakar pour aller en banlieue.
Ah oui, vous n'avez pas d'embouteillage comme ça, c'est pas mal.
Non, exactement, sauf le retour. Et pour l'aller, c'est 20-30 minutes, je suis au bureau.
Et Amadou Falba, comment est vue Pikine par les Dakarois et puis par les Sénégalais en général ? Quelle est l'image de cette banlieue-là ?
Elle est partagée. Forcément, il y a des clichés, il y a des stéréotypes pour les gens qui ne l'ont jamais visité. Parce que ça vous paraîtra bizarre, mais je connais des gens ici en centre-ville, par exemple les Sénégalais, des jeunes, qui n'ont jamais mis les pieds à Pikine, alors que c'est 20-25 minutes de voiture. Ils traversent l'autoroute, ils voient ce qu'est Pikine, mais ils n'ont jamais mis les pieds. Ça me fait toujours rire quand je discute avec eux. Mais à côté aussi, des gens qui connaissent Pikine savent que c'est un quartier agréable, c'est très grand, il y a beaucoup de diversité au niveau ethnique, linguistique, en matière de vivre, entre autres, parce que Pikine, je dis toujours que c'est le Sénégal en miniature. Vous venez à Pikine, vous allez retrouver toutes les ethnies du Sénégal.
Et alors, les zones... Ouais. Et les Dakarois n'y vont pas, ces jeunes que vous avez rencontrés, parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils n'y voient pas d'intérêt ? Comment l'expliquer ?
Je pense qu'il y a les deux, mais il y a d'autres Dakarois aussi qui passent tout leur temps à Pikine. Tu vois, il y a des gens qui vont pour des raisons professionnelles, pour voir la famille, une partie de leur famille, d'autres qui y vont juste par curiosité aussi. Je ne suis pas en train de dresser une image négative là-dessus, mais je veux dire qu'il y a, les deux. Il y a des Dakarois qui connaissent très bien Pékin, qui ont grandi à Pékin avant d'habiter à Dakar, et d'autres qui ont quitté Dakar même pour venir habiter à Pékin aussi. Parce que Pékin, comme j'ai dit, c'est la plus grande, la ville la plus peuplée du Sénégal, entre 2 millions d'habitants, alors que Dakarville, ça fait 1 million 300 à peu près.
Et il y a quand même des problèmes structurels aussi à Pékin, néanmoins.
Forcément, forcément le problème qui vous tape à l'œil, c'est, je ne dirais pas l'absence du service public, mais le service public à Dakar, ce n'est pas la même chose à Pékin. Comme j'ai dit tout à l'heure, Pékin, il y a une autoroute qui traverse plus ou moins la ville, mais à l'intérieur, il y a pas de route, pratiquement. Il y a pas, c'est une ville de 2 millions d'habitants, il n'y a pas d'université, par exemple. Mm. Où les gens qui ont eu le bac, ils sont obligés d'aller en centre à Dakarville pour faire continuer leurs études. Les hôpitaux, ils sont construits. Il y a un hôpital psychiatrique à Tiaroy, à Pékin. Il y a un grand hôpital dans la Diam construit sous l'Erwad, mais qui coûte très cher. Il y a l'hôpital de Pékin, un standing assez correct, mais coûte excessivement cher parce que le pouvoir d'achat n'y est pas. Donc ça, c'est des problèmes foncièrement structurels.
Et une fois qu'on a dressé ces constats-là à Pékin, alors que fait votre association, Afrique Urbaine?
Donc nous, à la base, nous sommes venus juste pour essayer de travailler, par exemple, sur la notion de l'accès à la culture pour tous. Comme je l'ai dit au niveau de l'éducation, dès que vous avez votre bac, vous êtes obligé d'aller en centre-ville pour continuer les études. C'est la même chose aussi au niveau de la culture. Je ne connais pas une bibliothèque, par exemple, respectable dans la banlieue dakaroise. Il n'y en a pas. Pour aller avoir des livres, etc., il faut aller en centre-ville, à la bibliothèque universitaire ou bien dans les grandes librairies. Il n'y en a pas à Pékin, par exemple. Au niveau aussi de la connectivité, le réseau Internet n'est pas le même quand tu es à Dakar et quand tu es à Pékin. La couverture n'est pas la même. Troisième aspect, aujourd'hui, quand vous voulez voir un grand concert digne de son nom, il faut aller à Dakarville. Parce que les deux théâtres se trouvent à Dakarville. Le Grand Théâtre et le Théâtre Serrano, deux théâtres, mais qui sont dans un rayon de moins de 2 à 3 km, par exemple. Alors que dans tout Pékin, il n'y a pas un théâtre.
Et alors, qu'est-ce que vous faites justement, du coup, pour favoriser cet accès à la culture?
Nous sommes dans une ville où la majorité est constituée de jeunes entre 25 et 35 ans. Nous avons accentué notre travail sur la promotion, la diffusion et le développement des cultures urbaines. Mais au fil des temps, nous avons aussi rajouté la formation professionnelle, l'éducation alternative et la réinsertion sociale, parce que la question des prisons aussi est une question sociale au niveau des grandes banlieues de tout, je pense, du monde entier. Donc nous avons ces quatre pôles où nous avons essayé de changer un peu le décor, essayer de pas forcément remplacer l'État, mais d'essayer de mettre la main à la pâte pour voir émerger des talents au niveau artistique, au niveau créatif aussi.
Vous accompagnez notamment des jeunes anciens détenus. Hein.
Exactement. Donc ça, on a un programme qui s'appelle Yuma, Youth Urban Media Academy, où nous avons accompagné 14 jeunes ex-détenus. Bon, mineurs, hein, quand ils entraient là-bas, ils avaient moins de 18 ans. Aujourd'hui, ils travaillent avec nous dans le centre. Ils n'ont jamais vu, par exemple, toucher un ordinateur, mais aujourd'hui, ces jeunes, ils peuvent couvrir cette conversation téléphonique que nous avons et le mettre sur YouTube. Pour vous dire que les choses ont évolué dans le bon sens.
Et vous avez créé aussi un festival de hip-hop et de cultures urbaines?
L'un des plus importants.
Alors, la ligne se dégrade, Amadou Falba. Je suis désolée, je vais devoir vous interrompre. Mais néanmoins, voilà, on aura parlé un petit peu en quelques mots de ce festival que vous avez créé. Vaes Gaillard, qu'est-ce que ça vous inspire, là, ce qu'on raconte sur Pékin, sur l'importance des cultures urbaines, de l'accès à la culture?
Eh bien, déjà, je trouve ça génial de pouvoir entendre quelqu'un qui est en banlieue de Dakar et qui nous explique ça. Merci. Ça m'inspire que, déjà, il y a des similitudes et je pense que c'est important de comprendre un peu ce qui se passe un peu à l'étranger pour pouvoir aussi s'apporter un peu et créer des connexions entre différentes banlieues. Après, c'est vrai qu'on a les mêmes enjeux en Seine-Saint-Denis aussi sur les cultures urbaines, sur la musique, et que c'est important de proposer aux jeunes des choses aussi qui... comment dire ça, des choses qui sortent de l'ordinaire aussi, des choses un peu, voilà, les cultures urbaines, mais il parlait de formation aussi, je trouve ça intéressant d'apporter de la formation autour de la musique. Non, je trouve ça, enfin moi, je trouve ça génial, et pourquoi pas Mon Incroyable Pikine, hein, je sais pas, peut-être.
Bientôt autre documentaire. Bientôt, vous ça. Aussi, vous êtes allé donc dans des lieux de culture, alors il y en a beaucoup, on peut peut-être en citer quelques-uns qui vous ont marqué dans le 93, dans cette
série. Oui, il y en a énormément, moi, je peux en citer un ou deux que je connais très bien, il y a Main d'œuvre à Saint-Ouen, dans les Puces. Qui a plus une salle de concert, qui fait aussi voilà, musique, cultures urbaines, musique actuelle. Mais il y a un lieu que j'ai, dont je suis tombé amoureux, et la fondatrice est dans le documentaire, c'est le chapiteau Rajganawak, un lieu de cirque et de musique, qui font à la fois des cours de boxe pour les femmes, des cours de français pour les nouveaux arrivants sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Voilà, ce lieu-là qui a été créé sans aide, sans institution, avec la force et l'amour des gens qui habitent sur ce territoire-là, et qui est sorti de toute pièce, et qui est géré que par des bénévoles. Et voilà, on rentre dans un lieu, on ouvre la porte, et c'est juste magique. Et voilà, ce genre de lieu en Seine-Saint-Denis, il en existe pléthore, sur lesquels on peut juste ouvrir la porte et avoir de la magie.
Et les banlieues prennent leur revanche dans 7 milliards de voisins aujourd'hui. On se retrouve dans un instant.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème, en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mains vont faire la part des choses, il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone, plus rien n'agite tes neurones,
pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs,
rien ne te retient,
va vite
faire quelque chose de tes mains,
ne te retourne pas
ici tu n'as rien,
et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur la terre, dis-toi qu'au bout il y a la mer,
et que ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien, comme celui avant toi, comme celui qui vient, que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le sait. Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde de tout son orgueil.
Sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey!
L'hymne de nos campagnes, c'est signé Trio et c'est sur RFI. Voyage en banlieue aujourd'hui avec nos deux invités en plateau, la sociologue Marie-Hélène Baquet qui publie Retour à Roissy, un voyage sur le RER B, et Wells Geyer qui a réalisé le documentaire Mon Incroyable 93. Alors on va parler du vert sur ces terres qui ont pu pour certaines rester agricoles. D'autres luttent encore, on va en parler pour cela, contre la bétonisation. Quelle place pour la campagne dans les banlieues? Vraie question, Wells Geyer, dans votre documentaire, on croise la route et les moutons d'un berger qui est à Bagnolet, donc plutôt à l'est de Paris.
On croise des chèvres et des moutons, et c'est ça le plus incroyable. Oui, oui. Moi, ce que je voulais montrer, c'est que la Seine-Saint-Denis, c'est un territoire hyper vert, qu'il y a des hérons qui migrent depuis l'Afrique jusque dans le parc de la Courneuve, que dans le parc de la Courneuve, il y a des bergers urbains, qu'à Bagnolet, il y a aussi un berger qui élève ses chèvres et qui fait son fromage, qu'il y a des parcs qui sont classés Natura 2000 et qui sont des lieux de préservation et qui sont le poumon vert de la Seine-Saint-Denis et qu'il ne faut pas les bétoniser.
Marie-Hélène Bach et vous, vous êtes arrêtée en banlieue sud de Paris dans ce qu'on appelle le Triangle Vert, qui porte bien son nom.
Oui, le Triangle Vert, c'est un ensemble de terres agricoles où les municipalités ont décidé de préserver ces terres agricoles et en particulier d'aider des jeunes agriculteurs à venir s'installer. Donc on protégeant le foncier. Et donc, on y rencontre une série d'expériences, de pépinières. On rencontre des jeunes agriculteurs qui s'y sont installés. Et on voit dans ce territoire-là qu'il y a vraiment une bataille pour la défense des terres agricoles avec des projets de centres commerciaux, de lotissements qui continuent à se développer. Et puis, en même temps, cette tentative de garder une dimension agricole qui est importante non seulement pour ces terres-là, mais pour l'ensemble de la métropole, puisqu'elle vient aussi nourrir les habitants de la métropole. Et il y a une série aujourd'hui de scénarios qui sont travaillés par des chercheurs qui réfléchissent à ce que sera la métropole de demain et dans une période de crise climatique, comment est-ce qu'elle peut se nourrir toute seule. Donc c'est un enjeu à la fois pour ces territoires et à la fois vraiment beaucoup plus global.
Alors vous parlez de bataille, vous êtes aussi allé voir du côté du projet Europa City. Donc là on repart au nord de Paris. Europa City, c'est un projet immobilier qui compte notamment un centre commercial, entre autres.
Qui compte un centre commercial, qui comptait même une piste de ski qui apparemment a été abandonnée. Donc un projet de centre commercial, alors qu'on sait que de nombreux centres commerciaux en banlieue sont en déclin, ne fonctionnent
juste
pas.
Juste à côté,
bien.
On peut citer Paris Nord, Paris Nord 2.
Oui. Il y en a déjà d'autres.
Aéroville, qui a des gros problèmes financiers, manifestement. Donc encore un gros projet spéculatif qui vient encore manger des terres agricoles.
Où on cultive des céréales, notamment.
Où on cultive des céréales et puis où commence à se développer aussi une agriculture biologique. Et donc tout un mouvement qui s'est créé contre ce projet, qui a réussi pour le moment à le freiner, mais les dernières nouvelles ne sont pas très positives. Donc il y a vraiment une pression très importante.
Valsgaillard, des habitants s'en plaignent notamment de ce
projet-là. Oui, complètement.
Qui est à Gonesse.
Qui est à Gonesse, mais qui touche, on va dire, parce que c'est un projet de... C'est je crois l'un des plus grands projets de centre commercial que j'ai jamais eu à entendre, qui n'est pas qu'un projet de centre commercial.
Il y a aussi
des hôtels, centres d'art contemporain, oui, et que ce soit entre Sarcelles et Aulnay, tous les habitants et les commerçants s'en plaignent parce que, voilà, comme je le disais, il y a déjà plein de centres commerciaux autour et ce modèle-là de à l'américaine qui ne convient pas en fait et qui est combattu par les commerçants quand. Voilà, en 2014, le projet était déjà en réflexion et quand je me promenais dans le cœur de ville d'Aulnay-sous-Bois et que je parlais aux gens de Europa City, ils me disaient « Non, en fait, nous, on va perdre déjà qu'on perd des clients, on va encore perdre encore plus et voilà, on va faire en sorte que centre-ville, et ben, les magasins vont fermer, ce genre de choses. » Et c'est même le concept, en fait, le concept derrière ça, de se dire qu'on n'est plus recentré sur le local, on va devoir s'exporter. Ouais, complètement. Alors, c'est un projet qui
suscite beaucoup d'inquiétudes.
Ouais,
vous êtes parti pour votre documentaire dans des lieux emblématiques, des lieux de culture, mais aussi des lieux de vie de certaines banlieues, comme cette librairie de l'avenue qui est en plein marché aux puces à Saint-Ouen. Donc toujours au nord de Paris, on écoute un extrait.
7 milliards de voisins pour se parler.
Un département dynamique, quoi qu'on en dise. Hein. Bon. Et puis éclectique et avec toutes sortes de métiers. Hein. Et en plus ici, vous venez sur Saint-Ouen, alors vous allez le voir, le marché en plus, c'est un grand truc. Ok. Alors, je ne sais pas, moi, si vous voulez me poser une question, Mais non, c'est rien du tout. C'est un espèce de grand hangar où on essaie de sauver des livres. À peu près 1300 mètres carrés. Mmh. Et nous vendons sur 600. Avec comme objectif, sauver les livres. Sauver les livres parce que nous sommes à une époque charnière où tout un tas de livres vont disparaître à cause d'Internet, à cause de tout ça. Mais nous, on a comme vocation de les sauver.
Là, par exemple, si je vous demande un livre sur la Seine-Saint-Denis.
Alors ça serait peut-être classé ailleurs, mais on a en principe sur la Seine-Saint-Denis.
D'accord.
Okay. Sur Saint-Ouen surtout.
Sur Saint-Ouen.
Oui, Saint-Ouen, on a beaucoup. C'est normal qu'on est sur Saint-Ouen.
Oui.
Saint-Ouen se bobourise un peu. Et on a beaucoup de jeunes de votre âge, tout ça, qui viennent acheter des livres ici.
Une librairie présente à Saint-Ouen sur le marché Opus depuis 1961. Et Marie-Hélène Baquet, vous aussi, hein, d'ailleurs, vous avez eu du mal à vous procurer des guides satisfaisants, des guides de voyage sur les banlieues.
Oui, effectivement, il n'existe pas vraiment de guide de voyage. Il existe des présentations par points où le département, le conseil général de la Seine-Saint-Denis fait aussi une série de guides mais qui sont plutôt des sites patrimoniaux, donc reconnus. Mais il n'y a pas vraiment de guides qui permettent de se promener en banlieue.
En tout cas, ce libraire est assez touchant.
Oui, oui, oui. Et en fait, c'est encore ce que je disais, c'est qu'on ouvre une porte et on tombe sur un endroit avec plus de 600 mètres carrés de livres, d'une personne qui a vraiment envie de sauver son métier. Et ce qui est intéressant, c'est que il est peu connu. Et au documentaire, on m'a dit plusieurs fois, est-ce que vous avez l'adresse de cette personne? Il faut absolument qu'on vienne. Et c'est que il essaye de sauver les livres, d'essayer de donner accès aussi à la lecture et à la culture pour tous. C'est vraiment ça qui.
Mais on peut rajouter qu'en Seine-Saint-Denis, il y a beaucoup, dans beaucoup de villes, il y a des librairies et même de nouvelles librairies qui viennent s'implanter. Il y en a une à Aubervilliers, il y en a une à Saint-Denis,
à Bondy.
Il y en a une à Montreuil,
à Bondy. Sur la place,
Et donc ce sont des lieux de vie importants. Et je crois que dans la présentation de mon ouvrage, le débat le plus fort et le plus émouvant que j'ai eu, c'est dans la librairie d'Aubervilliers.
Alors on va parler d'accès aux livres dans une autre ville de banlieue, au Bénin cette fois.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
On est ensemble.
7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins,
c'est sur RFI.
Bonjour Augustino Agbemavo.
Bonjour.
Bonjour, vous avez créé une bibliothèque mobile à Abomey-Calavi, donc en banlieue de Cotonou, au Bénin. Une banlieue qui vous a vu grandir d'ailleurs. Comment vous est venue cette idée-là alors d'une bibliothèque mobile?
Alors, comment m'est venue l'idée de la bibliothèque mobile? En fait, j'avais créé une bibliothèque scolaire dans ma localité, à Abomey-Calavi, lorsque j'avais 17 ans en 2010. Et j'ai géré cette bibliothèque-là de 2010 à 2015. Et en 2015, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'élèves qui ne pouvaient pas venir vers nous à cause de la distance. Et on s'est dit, mais si les élèves ne peuvent pas venir vers nous, mais nous, on peut apporter le livre vers eux. Donc, c'est là que j'ai commencé avec ma moto comme un moyen de déplacement. Donc je mettais les livres derrière et j'allais dans les écoles, toujours pour rapprocher les livres des élèves et pour parler un peu à l'absence des bibliothèques dans nos écoles. Voilà, parce que chez nous, moins d'un tiers des écoles disposent de bibliothèques. Et donc, pour avoir accès aux bibliothèques, il faut vraiment se gêner, se déplacer sur longue distance. Donc, ça peut éviter toutes ces peines-là qu'on a lancé à la bibliothèque mobile pour rapprocher les livres des élèves.
Alors, je suis désolée, Augustine Agbemavo, la ligne n'est pas très très bonne pour le moment. Je vais devoir peut-être aussi interrompre encore une fois cette conversation. Mais simplement, donc, pour parler effectivement de cette bibliothèque mobile, l'idée c'est que les élèves payent pour emprunter les livres. Ils payent 100 francs CFA par livre, donc l'équivalent de 15 centimes d'euros. Et donc, l'idée de ce projet, hein, c'est de rapprocher les livres des élèves avec, vous l'avez entendu, l'idée qu'il n'y a pas d'autres bibliothèque, et que c'est important cet accès à la littérature, ça vous inspire également?
Oui, complètement, je crois que ça existe un peu en Seine-Saint-Denis et dans d'autres départements, les bibliobus, ces genre de choses, qui par manque de transport, en fait, les gens n'ont pas forcément accès et peuvent pas se déplacer, donc on leur apporte aussi ça, des choses qui parfois leur permettent de venir se déplacer dans les médiathèques et dans les librairies. Je trouve ça...
Oui, c'est un très beau projet. Effectivement, la même démarche existe en Seine-Saint-Denis. Il y a tout un système qui est organisé. Mais là, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est vraiment organisé par quelqu'un de la société civile, donc qui décide de prendre des choses en main face à un problème. Il faut vraiment souligner
prendre exemple
cette
sur
initiative.
Ça, oui.
Difficile de ne pas parler de gentrification quand on parle des banlieues. Donc la gentrification, on va peut-être déjà un peu expliquer ce que c'est. C'est l'embourgeoisement qui touche Paris, maintenant s'approche banlieue. L'idée en fait que des personnes de classe plutôt moyenne aisée s'approprient des quartiers qui étaient auparavant occupés par des habitants moins favorisés qu'eux.
C'est ça, c'est un terme qui vient de l'Angleterre, hein, c'est qui gentrification de gentry, donc c'est à partir de la transformation de Londres, c'est le fait que des classes supérieures viennent occuper des lieux qui étaient occupés par des classes populaires et donc les transforment profondément, ce qui conduit bien souvent au départ des classes populaires, tout simplement parce que les prix fonciers augmentent, que les magasins ne sont plus accessibles.
Et vous avez pu le voir, vous avez pu assister hein, le long de votre voyage.
On voit des bouts de gentrification. En même temps, je pense qu'il faut faire attention à ne pas utiliser ce terme systématiquement. Parce que, par exemple, dans une ville comme Aubervilliers, on voit arriver une nouvelle population, mais elle ne prend pas forcément la place des populations les plus précaires. D'abord parce qu'elle arrive sur des friches industrielles, donc donc de nouveaux bâtiments, des lieux qui n'étaient pas habités. Et là, on a une autre problématique qui est celle de la cohabitation entre différentes populations. Mais on voit effectivement dans certains secteurs, dans des bouts de Saint-Denis par exemple, à Montreuil, à Aulnay, on voit des dynamiques de gentrification qui sont assez fortes. Et ce qui est intéressant, c'est que cette gentrification, elle cohabite avec donc, d'autres secteurs, des formes de paupérisation.
Dans des îlots en fait qui se paupérisent.
Oui, donc on ne pourrait pas dire qu'il y ait une vague de gentrification qui viendrait de Paris de façon uniforme. On a une mosaïque en fait avec des points qui sont très pauvres et puis d'autres qui sont très riches et puis entre quand même, c'est important de le souligner, beaucoup de quartiers de mixité, de mélange très important.
Ce qui est intéressant, c'est que on compare, je crois, le nombre d'articles qui ont comparé Brooklyn et la Seine-Saint-Denis. On en a énormément. Et en fait, je pense pas que ce terme, enfin, de comparer Brooklyn et la Seine-Saint-Denis, ça soit un bien. Parce que vu l'état de Brooklyn et vu.
Brooklyn est devenu très bourgeois.
Bourgeois, oui, c'est ça. Oui, et tout. Enfin, il n'y a aucun. On ne peut plus se loger décemment. On espère en tout cas que la Seine-Saint-Denis et Brooklyn ne vont pas être sur le même niveau. Oui, bah, la gentrification, c'est une vraie peur. C'est une vraie peur.
Vous l'avez ressenti, oui.
Je l'ai ressenti et je le ressens au quotidien de tout type de population, même de personnes qui étaient arrivées il y a 15 ans de Paris, qui ont maintenant voient le changement. Mais je vous donne un exemple, le Galion à Aulnay-sous-Bois. C'est un peu l'emblème de la cité des 3000 qui, dans le projet Henri 2, va être détruit. Et il y a une association qui essaye de se battre pour garder cet emblème-là, pour pouvoir...
Donc cet emblème, c'est...
C'est à l'entrée des 3000, un ancien centre commercial, une galerie marchande, lieu associatif, lieu de rencontre, qui est l'entrée de la ville des 3000 et qui dit « Bonjour, vous êtes aux 3000 ». En gros, c'est ça. Grand, on va dire, quelque chose de 25, bâtiment de 25 mètres, gris, qui est pas forcément très beau, mais qui donne quelque chose aux habitants.
Qui fait partie pour eux de,
c'est ça.
De leur vie.
Et en fait, le projet Henri veut détruire ce bâtiment.
Donc Henri, c'est l'Agence de la Rénovation Urbaine.
Agence nationale de la Rénovation Urbaine. Et ses habitants se battent pour pouvoir, pas le détruire, mais le rénover et de créer un projet autour de ça. Pourquoi ils veulent faire ça? Parce qu'ils ont peur de la gentrification et ils le disent ouvertement. Si on détruit ce bâtiment-là et que le métro arrive à même pas 200 mètres, des nouveaux bâtiments vont se construire à la place et on pourra plus y habiter parce que les prix vont augmenter, parce que le métro. Mais ils ne sont pas écoutés. Et voilà, sur ces petits projets, ils ont créé une association, réfléchir avec des architectes, sur plein de choses comme ça. Et voilà, il y a plein d'exemples comme ça dans toute la Seine-Saint-Denis.
Donc en gros, l'idée, c'est de sauver cette galerie marchande-là pour essayer de sauver leur place, en fait.
Sauver leur place, sauver le fait qu'ils peuvent y rester, qu'ils peuvent vivre décemment, et que, voilà, réfléchir à un autre modèle, en fait, de tout détruire et pour reconstruire.
Parce qu'il faut rajouter sur cet exemple-là que les commerçants ont été déplacés et que n'ont pas été relogés un certain nombre de commerçants qu'on appelle ethniques, parce que le nouveau centre commercial a refusé de les reloger. Donc il y a en même temps une forme de lissage en fait, hein, à la fois du peuplement, à la fois...
Et avec cet argument, la mixité sociale.
Voilà, et même argument utilisé à Châtenay-Malabry, dans un ensemble qui est un patrimoine architectural très important, qui est la cité-jardin de Châtenay-Malabry, de la Butte Rouge, que la municipalité veut démolir à 85% au nom de la mixité sociale et pour venir construire des bâtiments construits par des promoteurs privés et donc en chassant hors de Châtenay les populations qui y résident.
En Seine-Saint-Denis, on a parlé du Grand Paris, il y a le Grand Paris Express, hein, donc ce réseau de transport urbain qui prévoit notamment 68 gares. Et puis c'est une question d'actualité avec les Jeux Olympiques de 2024 qui se tiennent à Paris, de nombreuses infrastructures qui vont être construites en Seine-Saint-Denis.
Exactement, la Seine-Saint-Denis va être bouleversée, chamboulée. Mais voilà, ça apporte des positifs, du positif comme à Clichy-sous-Bois par exemple. Là, ils sont en plein test du tram, du tram T4, qui est un projet qui date de, je sais pas, au moins 25 ans, au moins. Et ils sont en train de faire les tests. Donc voilà, et il y avoir une gare qui va les relier. Parce que voilà, habiter Clichy-Montfermeil, pour venir travailler à Paris, c'est près de 2 heures.
Ouais, c'est énormément de temps de transport.
Voilà,
on revient à cette question de la centralité, du transport des routes.
Et ils vont construire une gare du Grand Paris Express dans, aux côtés du chêne pointu pour pouvoir relier. Et, voilà. Et je pense que c'est vraiment ça l'enjeu, c'est se dire voilà, comment ces projets-là peuvent servir aux habitants, aussi bien le projet du Grand Paris que le projet des Jeux Olympiques, comment on implique les habitants, mais vraiment pas sur le papier, pas on le dit, on le fait, non vraiment, mais parce que je pense que pour moi la Seine-Saint-Denis c'est une terre de pour moi c'est presque, il y a Paris qui est l'Angleterre et la Seine-Saint-Denis c'est l'Écosse en fait, un peu se dire que c'est des insoumis qui vont pas se laisser faire, je pense en tout cas, et qui vont essayer de se battre pour pouvoir garder leur territoire et pas le faire évoluer trop rapidement.
Marie-Hélène Paquet, j'aimerais qu'on revienne sur cette idée de laboratoire des métropoles de demain. En quoi ces villes que vous avez traversées le long du RER B sont des laboratoires ?
Elles sont des laboratoires du point de vue de ce qu'on a évoqué, notamment la vie culturelle qui est quand même particulièrement importante et novatrice. Quand on regarde ce qui se passe en banlieue par rapport à ce qui se passe dans Paris, beaucoup de créations aujourd'hui viennent de la banlieue. Elles sont novatrices dans les recherches de formes urbaines également, dans l'articulation entre ville et campagne qui aujourd'hui est de plus en plus nouée en fait, avec beaucoup de tentatives de refaire de l'agriculture. De l'agriculture urbaine, dans la prise de parole des citoyens et dans les mouvements sociaux qui s'y développent. Et les questions qui émanent de collectifs de banlieue finalement interrogent l'ensemble de la société, que ce soit celle de la discrimination, celle des rapports avec la police, que ce soit la question de la démocratie qui est fortement portée dans ces territoires. Et de ce point de vue-là, il me semble que ce sont effectivement vraiment des laboratoires. Et puis aussi l'articulation entre différents groupes sociaux et surtout différentes origines qui est notre société de demain, puisque nous sommes, que nous voulions ou non, dans une société multiculturelle.
Des laboratoires et puis des lieux de tourisme, hein, c'est aussi l'enjeu de votre documentaire, Vérès Gaillard.
Oui, c'est le montrer que la Seine-Saint-Denis peut être un lieu touristique. L'idée, c'est de pas faire du tourisme de masse comme à Paris, mais l'idée, c'est de prendre le contre-pied du tourisme de masse et se dire que finalement, même les territoires qu'on considère pas dans l'imaginaire collectif comme touristique peuvent l'être, et que la Seine-Saint-Denis a des habitants aussi, et que ces habitants servent aussi le tourisme, et c'est que c'est pas le patrimoine bâti qui fait visiter la Seine-Saint-Denis, c'est ses habitants qui sont le patrimoine humain, qui font la ville et qui font visiter le territoire.
Et pour les voisins qui nous écouteraient, qui auraient envie de visiter justement ce département-là, la Seine-Saint-Denis, qu'est-ce que vous conseilleriez?
Oh, je pense que je partirais de Stalingrad avec un canoë et j'irais le long,
Paris, hein.
Qui est dans Paris, par exemple, à l'est, et prendre un canoë et aller sur le canal de l'Ourcq, qui est traversé jusqu'à Clessouilly, à la fin, à la limite Clessouilly, c'est la limite entre la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne, on peut le faire à vélo, et ça c'est génial parce que ça donne un nouveau regard, et en fait s'arrêter autour de ça pour visiter, et je pense le deuxième lieu, je pense le Palacio d'Abraxas qui est à Noisy-le-Grand, si vous avez vu Hunger Games, ça a été tourné là-bas. Voilà.
Un film très connu américain. Voilà, c'est pour les recommandations touristiques sur la Seine-Saint-Denis. Merci beaucoup. Merci à vous, Wells Geyer. Merci également à vous, Marie-Hélène Baquet. Merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins. Sophie Janin à la réalisation, Sigrid Azerwal, Cécile Lavolo en coulisses, Elsa Olaizola pour vous répondre, les voisins et les voisines. Et merci à Romain Arnaud qui a réalisé notre générique du jour. Merci également aux voisins et aux voisines pour votre écoute, pour vos messages. Demain, 7 milliards de voisins, sujet éducation, comme chaque vendredi. On s'interrogera sur l'éducation positive. Elle est basée sur l'empathie, sur le respect de l'enfant, aucun mot plus haut que l'autre. On en parle d'ailleurs au moment où en France la fessée vient d'être interdite. Alors ne culpabilise-t-on pas trop les parents et notamment les mamans? Comment éduquer au mieux ses enfants? On en parle demain dans 7 milliards de voisins. Demain.